Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux. Il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio.
Vendredi 14 janvier, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. Matin un peu froid, il y a encore quelques flocons de neige dans la grande région de Montréal qui vont disparaître au fil de la journée. Moins 7 en ce moment. Là, vous allez voir une tendance inverse. Là. Normalement, ça se réchauffe pendant la journée. Bien, aujourd'hui, ça se refroidit. Ça va aller chercher moins 10 un peu plus tard aujourd'hui pour atteindre moins 24 ce soir et cette nuit. Donc, le froid, cette petite vague de froid qui revient s'installer bien comme il faut. Demain, on parle à peu près moins 17 là, selon Environnement Canada avec du beau soleil, moins 22 la nuit, moins 14 dimanche. Et on va avoir normalement une belle tempête de neige lundi. D'ailleurs, un peu plus tard à l'émission, on va parler à Frédéric Dion l'aventurier. Afin d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, cet hiver quand il fait froid, quand on est déprimé, pour essayer de retrouver un peu la joie et le plaisir hivernal. Je suis certain que Benoît et Mario vont écouter cette chronique-là, eux qui adorent l'hiver. Alexandre, bonjour.
Salut.
Aimes-tu l'hiver?
Moi, j'aime l'hiver, oui, sincèrement. Bon. Là, les sports hivernaux et tout, moi, ça me fait bien plaisir. Mais je t'avoue qu'en confinement comme ça, je prendrais de la chaleur pour me saisir des parcs montréalais à nouveau pour voir des gens.
Un peu de vitamine D.
Un peu de vitamine D, ouais. Ça ferait du bien en ce moment, mais j'aime l'hiver, ça me tout. Oui.
Bon, rentrée scolaire lundi, ça va se faire sans N95 pour les professeurs, sans purificateur d'air dans les écoles, sans test rapide pour les élèves au secondaire et avec beaucoup d'inquiétude de la part des professeurs et des parents. Ceci dit, quand on fait le pour et le contre, quand on regarde les enjeux de santé publique du virus, mais aussi de l'absentéisme en classe, de l'école à distance, on a fait et on a décidé qu'il valait mieux que les jeunes retournent à l'intérieur des écoles pour pouvoir socialiser cet apprentissage-là. On va d'ailleurs avoir une professeure tantôt qui est aussi maman en entrevue, qui est pas mal à bout, là, qui a une lettre ouverte qui a été publiée dans le Journal de Montréal au cours des dernières heures. Sincèrement, juste lire cette lettre-là, on peut comprendre pour la santé mentale, pas juste des enfants, à quel point ça va être important, le retour à l'école. On a aussi annoncé la fin du couvre-feu lundi, passeport vaccinal qui va être élargi à partir du 24 janvier dans les gros commerces comme les Walmart, les Costco, les Canadian Tire, les Sport Experts. Ce matin, il y a des commerçants qui déplorent la situation, qui disent « Hey, on est une grande surface, il y a moins de contacts dans nos magasins. Est-ce que vraiment ici, on est encore là pour emmerder ou pour protéger les citoyens? » On apprend d'ailleurs que possiblement que le pic, le sommet des hospitalisations pourrait être atteint durant la fin de semaine. Fin de semaine qui risque d'être encore très difficile. Mais au moins, on a annoncé 500 millions de dollars pour le personnel de la santé, des vacances supplémentaires si on fait du temps supplémentaire. Je sais pas, Alexandre, si tu as vu hier les camionneurs non vaccinés. On a annoncé d'abord qu'il allait avoir un sursis. Finalement, le gouvernement fédéral est revenu à la charge pour dire non, il y aura pas de sursis. Ils devront être vaccinés pour traverser la frontière. Ça crée pas mal de confusion. Mais sachez qu'ils devront, les camionneurs, être vaccinés pour entrer au pays. Il y a un adolescent qui a été tué par balle hier sur le plateau Mont-Royal, au croisement des rues Rivard et Roi-Est. On va avoir plus de détails aujourd'hui. Là, hier, on nous disait qu'on craignait pour sa vie. Aucun suspect n'avait été appréhendé. Donc, un autre ado tué sur le sol montréalais. Marguerite Blais, ministre des Aînés, va témoigner aujourd'hui normalement devant la coroner Yann Kamel. Et là, selon Radio-Canada, on nous apprend que le gouvernement n'a pas fourni beaucoup, beaucoup de documents qui avaient été promis durant les audiences au cours des derniers mois. Puis finalement, toujours COVID, mais un peu sportif. Novak Djokovic, Le ministre australien de l'immigration a révoqué, a annulé son visa. Pour la deuxième fois, ses avocats disent qu'il compte faire appel, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, restera-t-il en Australie? Pourra-t-il jouer? Pour le moment, du moins, le politique ne le souhaite pas. Toujours dans la COVID, Alexandre, il y a 3 policiers anti-mesures sanitaires de la SQ qui ont été comme réorganisés.
Oui, c'est un bon terme, réorganisés. Ils ont été mutés à des tâches administratives. Là, ces 3 policiers dont on avait appris là l'existence dans les derniers jours parce qu'ils ont participé dans une vidéo qui a été mise en ligne le 30 décembre dernier à une assemblée de conspirateurs, de complotistes qui dénonçaient les mesures sanitaires, entre autres, font partie d'un groupe de pression qui est appelé Policiers pour la Liberté Québec, hein, Police for Freedom, un mouvement, j'en avais parlé un peu plus tôt cette semaine, qui est né en Espagne, qui dénonce toutes sortes d'applications de mesures sanitaires par les policiers. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui s'était dite le mercredi très préoccupée par la situation. Donc, cette mutation est décrétée en attendant les résultats d'une enquête interne de la division des normes professionnelles de la SQ.
Mais là, aux États-Unis, c'est pas des jours faciles pour Joe Biden. Hier, ça a été particulièrement difficile pour le président américain.
Comme quoi, un malheur ne vient jamais seul. Hier, c'est pas un, mais bien 2 revers que subit Joe Biden. Hier, il bataillait là, pour sauver là, du naufrage parlementaire sa vaste réforme électorale qui visait à protéger l'accès aux Afro-Américains, aux urnes, entre autres les Afro-Américains, parce que plusieurs États, entre autres républicains aux États-Unis, qui restreignent de toutes sortes de manières, par toutes sortes de lois, l'accès aux droits de vote.
Surtout pour les populations afro-américaines.
Surtout pour les minorités, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès. Hier, le président américain qui, pour une fois, là, c'est très rare qu'il se déplace, était au Capitole. Il n'a rien pu faire, par contre, parce que habituellement, en théorie, ça prend 60 voix au Sénat pour faire passer une loi du genre. Le problème, c'est qu'il y a 51 sénateurs démocrates qui sont là-bas, incluant Kamala Harris, la vice-présidente. Donc, avec une majorité simple, à 51 voix, ça pourrait passer, mais c'est pas une pratique qui est adoptée habituellement.
Ouais, c'est parce que ça prend 60 sénateurs pour faire arrêter les filibusters. Donc, techniquement, les républicains peuvent parler sans arrêt, sans appeler le vote. Donc, on ne vote jamais finalement sur un projet de loi à cause d'une vieille tradition sénatoriale.
Exact. Et c'est donc cette manœuvre-là qui a été torpillée par 2 sénateurs démocrates plus modérés. Joe Manchin, un sénateur centriste, puis Kirsten Sinema, qui ont, malgré une rencontre là, de 1h20 hier soir avec le président américain, ont décidé quand même de bloquer sa manœuvre. Et je disais, c'est 2 revers pour Joe Biden. Il y en a un autre. La Cour suprême a bloqué également hier son obligation vaccinale en entreprise. C'était dénoncé là comme abus de pouvoir par les élus républicains, évidemment, alors que seulement 62% de la population américaine qui est complètement vaccinée. On espérait pouvoir imposer soit des tests réguliers, soit la vaccination complète aux entreprises de plus de 100 salariés. Ça n'a pas passé. Malgré tout, ils ont validé l'obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux.
Quand même. Un petit pas alors qu'on voulait en faire beaucoup plus. Et là, les Oath Keepers, ça c'est quoi? C'est un mouvement d'extrême droite?
Milice d'extrême droite.
On parle-tu du Capitole là-dedans?
On parle... Très exactement du Capitole. C'est le chef et fondateur des Oath Keepers. Je le dis, c'est une milice d'extrême droite anti-gouvernement, comme il y en a plusieurs aux États-Unis, mais les Oath Keepers sont très nombreux. Il a été arrêté hier pour son rôle dans l'assaut sur le Capitole. Stuart Rhodes, de son nom, un homme de 56 ans, puis il y a 10 autres membres également de cette milice qui ont été inculpés pour sédition avant hier par un grand jury américain. Sédition, là, c'est un chef d'inculpation qui est extrêmement important. C'est passible de 20 ans de prison, voire encore plus. On parle d'avoir tenté d'empêcher un transfert pacifique du pouvoir en faisant usage de la violence. Puis c'est vrai parce que les Oath Keepers ont organisé des transports de tout le pays vers Washington à la veille, évidemment, de la certification du vote du 6 janvier. Ils ont fourni des armes, des tenues de combat. Bref, ils étaient organisés pour amener le plus de gens possible à l'endroit. Donc, on va voir quelle peine ils vont encourir, mais disons que c'est une victoire quand même là pour le ministère de la Justice américaine.
Et une petite nouvelle légère du vendredi. Un homme du Dakota qui a été arrêté parce que il a fait des brownies aux potes et ils n'ont pas été mangés par la bonne personne.
Ils n'ont pas été mangés par la bonne personne, effectivement, soit lui-même. Hein. C'est un homme de 46 ans qui est revenu du Colorado. Il a acheté une livre de beurre de THC, donc pour faire toutes sortes de produits dérivés comestibles de cannabis. Le problème, c'est qu'il a fait ça avant d'aller se souper, avant d'aller se coucher, pardon. Il a fait une belle grosse batch de brownies aux potes.
Une
belle grosse recette. Il a laissé ça refroidir. Il est allé se coucher. Le problème, c'est que sa mère, elle, a vu les brownies, s'est dit, tiens, c'est parfait. Je vais aller la porter au centre communautaire où il y a, entre autres, toutes sortes de personnes âgées. C'est un centre pour personnes âgées. Et elle a amené ça à une partie de carte. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes âgées qui ont mangé les brownies aux potes et qui se sont mis à ne pas se sentir très bien. Et donc, la police qui a enquêté pour des empoisonnements potentiels. Et finalement, ben, il fera face à des chefs d'accusation de substances contrôlées, possession de substances contrôlées. Disons qu'il aurait dû garder ses brownies bien cachés dans sa chambre.
Ça a dû être assez comique.
Ça a dû être épicé, oui.
Merci, Alexandre.
Salut.